Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous voulons recevoir ta parole, Seigneur, et être transformés entièrement, totalement par elle, Seigneur. Seigneur, viens nous parler et manifeste-toi dans ta grâce. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc au chapitre 19. Luc 19, c'est l'histoire de Zachée. Luc 19, à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » On peut reprendre à partir du verset 8. C'est ça le cœur de notre exhortation. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, on nous dit que Jésus entre, s'invite chez Zachée, et Zachée est surpris de ce que le Seigneur s'intéresse à lui. Et lorsque Jésus entre dans la maison de Zachée, qu'est-ce qu'on nous dit? Que Zachée dit au Seigneur de lui-même. Il prend conscience qu'il est dans la présence de Dieu. Il prend conscience que la présence de Jésus, c'est la visitation de Dieu. Il dit, « Seigneur, je décide de mettre ma vie en règle. J'ai été un homme mauvais, j'ai été un homme méchant, j'ai été un homme égoïste, j'ai été un homme voleur, mais je veux désormais mettre ma vie en règle. » Le thème de notre exhortation, c'est « Mettons nos vies en règle. » Vous savez, Zachée n'a pas loupé cette occasion-là. Jésus n'a rien dit à Zachée. La simple présence de Jésus a suffi pour convaincre le cœur de Zachée. Et qu'est-ce que Jésus dit à Zachée? Qu'est-ce que Zachée dit à Jésus? Je décide d'arranger avec les humains autour de moi. Et Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Dans notre progression, nous avons deux aspects. Le premier aspect, c'est la réconciliation avec Dieu. Mettre sa vie en règle, c'est se réconcilier avec Dieu en commençant par reconnaître que J'ai un problème. J'ai peut-être un problème de colère qui dure. J'ai peut-être un problème d'amertume qui se prolonge dans le temps. J'ai un problème de manque de pardon qui demeure. J'ai un problème d'orgueil. Je ne supporte pas la faiblesse des autres. Je ne supporte pas la façon de faire des autres. Je ne supporte pas d'être repris, d'être critiqué. Et bien aimé, vous voyez, Zachée a fait ce travail-là. Pourtant, on nous dit au verset 7 que les gens dehors murmuraient en disant « Mais il est allé chez un voleur !» puisque Zachée était publicain. Et les publicains, c'était des gens qui travaillaient avec les Romains, qui étaient chargés de récolter les impôts. Et bien souvent, comme ça se fait encore peut-être jusqu'à aujourd'hui, les humains ont tendance à prendre plus qu'il n'en faut. Mais comme ils ont le pouvoir, qui va les arrêter? Et Zachée s'est enrichi de cette manière-là. Et convaincu par la présence de Jésus chez lui, il décide de se mettre en règle. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, je vais restituer tout ce que j'ai pris aux autres. Et Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison. On a dit le premier aspect, c'est la réconciliation avec Dieu. Et le deuxième aspect, c'est la réconciliation avec les humains. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, Jacques nous dit que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas l'humain que Dieu a créé et que tu vois. Jacques nous dit que nous sommes des menteurs. Jacques nous dit que nous sommes des menteurs. Bien-aimé, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est une méditation. On pourrait la formuler sous forme de question. Ma vie est-elle en règle vis-à-vis de Dieu? Vous savez combien viennent dans les cultes? Et ils ont des choses dans le cœur. Mais ils viennent accomplir un rite. Bien-aimé, c'est pour ça que nous avons pris ce texte-là. S'il y a quelque chose, on va prendre peut-être d'autres textes, mais ce texte, c'est le texte principal puisque c'est là l'amour de Dieu et la pensée de Dieu. Jésus dit, le salut est entré dans cette maison, puisque celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est que cet homme a bénéficié de la présence de Dieu pour dire, Seigneur, transforme-moi. Combien bien-aimés d'entre nous venons dans la présence de Dieu avec des choses non réglées. Parfois on chante, on travaille, on prêche, on exhorte, on est à la tâche. Mais le cœur n'est pas libre devant Dieu. Combien sommes-nous dans ce cas, bien-aimés? Et c'est ça l'exhortation du Seigneur. C'est ça l'exhortation du Seigneur. Vous savez, ce qui a inspiré cette méditation, c'est que j'étais à un culte et pendant le moment de la Sainte Cène, bien-aimé, je peux vous dire que dans la salle, il y a eu peut-être 5 ou 6 personnes qui se sont abstenues de prendre la Sainte Cène. 5 personnes, ou 6 même. Alors, bien-aimés, nous ne sommes pas Dieu pour savoir quel est, non. Mais je pense que c'est ça le but de l'exhortation, bien-aimés. C'est nous dire, mais pourquoi tu attends? Pourquoi tu traînes? Tu as l'occasion. Quand tu vois que la scène arrive, quelqu'un dira, oui, mais c'est vaut mieux ne pas prendre parce que si quelqu'un est dans le péché. Mais, bien-aimés, l'occasion que Dieu te présente quand tu vois la scène là, c'est de te dire, puisque généralement le modérateur dit, attention, veillons à ce que nos vies soient correctes devant Dieu pour que cette scène ne soit pas un jugement. Donc, à ce moment-là, bien-aimés, nous avons l'occasion de dire, ah Seigneur, tout de suite là, je décide de régler mon problème. Mais quand la scène passe, tu dis non, bien-aimés, en quelque sorte. Bien-aimés, on peut citer toutes les raisons en disant, oui, mais je ne suis pas prêt, oui, mais bien-aimés, mais si tu sors là, pendant que tu te lèves, tu tombes, tu perds le souffle. Tu meurs. Oui, sachez, n'a pas tardé. Les gens dehors disaient que c'était un homme voleur, c'est un méchant. Jésus ne lui a pas parlé. L'occasion se présente, il dit tout de suite, Seigneur, voilà, je décide de me mettre en règle, tout de suite. Bien-aimés, nous voulons insister là-dessus. Dieu ne vient pas nous juger. La Bible dit dans Jean 3, 17, un verset que j'aime beaucoup. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour que qu'il juge le monde, mais que le monde soit. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le salut est entré dans cette maison. Bien-aimés, c'est ça l'exhortation du Seigneur. Jésus n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour sauver. Mais attention, négliger le salut de Jésus, c'est s'exposer soi-même au jugement de Dieu parce qu'il viendra. Et je reviens à mon exemple. Vous voyez des gens sur Dieu en disant non, 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 j'en veux pas. Et parfois, on peut observer et voir que ça fait 3-4 fois, 5 fois la personne. Mais bien aimé, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est de dire, si nous avons un problème, alors pourquoi tardons-nous à le régler? Pourquoi tu tardes? Alors on n'a pas toutes les raisons. Et on ne cherche pas à savoir toutes les raisons. Mais une des raisons fondamentales, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. On estime avoir été lésé. On estime avoir été traité injustement. On estime qu'on a trop souffert. On estime que notre position devient légitime. Vous savez comme en français on dit, hein, à force d'excuser l'inexcusable. Non, à force d'expliquer, pardon, l'inexplicable, on excuse ce qui est inexcusable. C'est pour ça qu'on a des psychologues aujourd'hui qui vont essayer de tout expliquer pour dire oui, ce monsieur-là, s'il a violé, c'est parce que lui aussi il a été abusé, c'est parce que. Mais est-ce que ça suffit pour faire de ce monde à un moment là? On a vu encore hier une jeune fille de 14 ans tuée. C'est ça, bien-aimé. Restez dans cette position. Nous allons le voir, bien-aimé. Garder le mal, nourrir le mal. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 14, 30? Il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Donc gardez une pointe d'amertume comme ça dans le cœur. Bien aimé, le mal, on ne le gère pas et il finira par nous détruire. Vous savez, plus on tarde à faire la démarche, plus la démarche devient difficile à la faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Plus tu tardes à t'humilier pour demander pardon, eh bien, plus ça va être encore plus difficile de demander pardon. C'est ça la réalité. Et Zachée voit Jésus. Il dit, Seigneur, tout de suite. Bien aimé, ce qui est étonnant, c'est que Jésus n'a rien dit à Zachée. La simple présence de Dieu a suffi pour que Zachée prenne la décision. Peut-être qu'il avait déjà commencé à penser à cela. Peut-être. Mais le fait que Dieu s'intéresse à lui, et plus que cela, le fait qu'il soit dans la présence de Dieu, il décide tout de suite d'arranger, bien-aimé. Combien sommes-nous? On est dans la présence de Dieu, mais en train de critiquer. Oh, lui, il est sorti de la tonalité. Oh, lui, il est... Lui, mais bien-aimé... Vous savez, notre bien-aimé Bastien a dit tout à l'heure, mais en introduction, la question c'est pourquoi nous venons? Pourquoi nous venons au culte? Il y en a qui viennent avec un stylo. Ah, le pianiste a fait une fausse note. Ah, un tel. Ah, la chante. Oh là 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 là. Et bien-aimé, vous savez, nous, nous faisons ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Vous savez qu'il y a des assemblées où on fait des castings pour avoir les meilleurs, comme à Star Academy. Il y a des assemblées où on cherche... Je ne dis pas que ça n'excuse pas le travail. Bien sûr que le travail doit être là. Mais il y a des assemblées, moi je vous dis la vérité, où chacun envoie une vidéo, présélection, tu chantes, on regarde la vidéo, on voit le niveau, on dit ok, On va sélectionner les 10 là. Ensuite, on passe à une autre étape. Allez, conduire un champ. On t'impose. Mais bien aimé, est-ce que, si c'est ça le but, vous savez, dans le monde, il y a des musiciens qui sont très forts. Dans le monde, il y a des musiciens qui sont très très forts. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'adorer et de servir le Seigneur. C'est ça le but. Alors la question, quand tu viens dans la présence de Dieu, viens rencontrer Dieu. Et quand tu viens rencontrer Dieu, alors, vous savez, tu es comme Luc 18, hein, l'histoire du publicain et du pharisien. Le publicain, on dit que lui regardait, il n'osait même pas regarder là-haut puisqu'il est trop sale. Il dit, Seigneur, je compte sur ta grâce. Je suis un homme pécheur. Je suis un homme mauvais. Mais je compte sur ton amour. Et Jésus dit quoi? Qui a été justifié parmi les deux? C'est ce publicain-là qui a été justifié. Pourquoi? Parce que il a décidé de mettre sa vie en règle en reconnaissant son état, en disant, Seigneur, ça suffit. Ça suffit de continuer à être mélancolique. Vous savez, la mélancolie en français, c'est quelqu'un qui change d'humeur sans raison, comme ça. Triste tout le temps. C'est ça, bien-aimé. Et le but de l'exhortation, c'est de se saisir de cette occasion comme Zachée. Nous gardons le texte de Zachée, qui est notre texte principal. Nous allons dans Matthieu 5, où Jésus nous donne encore un aspect qui est important. Matthieu 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton père, puis viens présenter ton offrande. On peut lire le verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Là, c'est l'avertissement que le Seigneur nous donne. Vous voyez qu'il y a toujours les deux aspects. Le verset 25, on dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire, puisque sinon, il te conduira au juge. Et le juge sera implacable. Et le verset 23, on a lu que si tu veux donner ton adoration, parce que l'offrande ici, c'est l'image de l'adoration. Et vous savez, dans le contexte, les commentaires de ceux qui enseignent, ils disent que l'expiation pour le peuple juif ne suffisait pas à faire le sacrifice pour être pardonné. Là, le pardon était effectif quand? Quand tu allais te réconcilier avec ton frère, l'expiation du sacrifice que tu as fait, là, avait un sens maintenant. Dieu te pardonne. C'est-à-dire que si tu te limites à dire juste, j'ai fait un sacrifice, mais en même temps, je n'ai pas arrangé avec le bien-aimé, Dieu considère que c'est caduque. C'est ça l'explication de ce texte. Alors Dieu nous dit quoi? Il nous dit, si tu veux donner ton offrande et que tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère. Non, même pas. Il dit, si ton frère a quelque chose contre toi. C'est-à-dire que ça ne dépend même pas de toi. Mais tu es conscient qu'il y a un malaise. Alors, il dit, il vaut mieux pour toi garder ton offrande et aller te mettre en règle. Bien-aimé, vous voyez comment Dieu insiste sur ce qui est important. Et là, je veux attirer notre attention sur le caractère immédiat. Dieu dit là, s'il y a des choses qui ne sont pas réglées, règle-les avant de venir m'adorer. Je paraphrase hein, en français simple. S'il y a des choses qui ne sont pas réglées, fais la démarche de les régler. Et si tu es au culte et que le Seigneur te fasse souvenir que tu as des choses à régler, Prends la décision à ce moment-là de dire, bon, après le culte, je vais appeler un tel, peut-être qu'il est loin, peut-être que je n'ai pas l'occasion de le voir, ou je fais la démarche, en tout cas, je m'engage à faire. Vous savez, quand Zachée dit à Jésus, à partir d'aujourd'hui, je rends. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais il a fait juste une promesse. Est-ce qu'il a réellement fait derrière? Est-ce que... Mais non, mais vous savez, Jésus est Dieu. Jésus a lu le cœur de cet homme-là. Il a vu que c'était ce qu'il désirait. Puisque beaucoup disent, hein, mais parfois on dit qu'on a pardonné, mais en réalité, on a... Mais bien aimé, le pardon, ce n'est pas un sentiment. Le pardon, c'est une décision. On décide de pardonner. Et ensuite, Dieu fera le travail pour nous amener maintenant à accepter la situation. Mais si on attend d'être totalement fort, restauré pour pardonner, vous savez, quelqu'un peut t'avoir blessé. La blessure est là. Mais malgré la blessure, comme Jésus à la croix, tu dis, Père, pardonne-leur. Comme Étienne a dit, ne leur impute pas ce péché. Tu décides d'abord, sincèrement, et Dieu te donnera la force d'aller jusqu'au bout maintenant. Mais qu'est-ce que tu décides? C'est ça, bien-aimé, le cœur de notre exhortation. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? De mettre ta vie en règle ou de sortir d'ici? Toujours le même. Parfois, le mari ne parle pas à sa femme. Parfois, la femme ne parle pas au mari. Parfois, le père ne parle pas à ses enfants, ou quand il parle aux enfants, c'est comme un lion. Mais en même temps, tu viens adorer le Seigneur. Tu viens glorifier le Seigneur. Le Seigneur a dit non, ça ne marche pas comme ça. Cherche d'abord à arranger. Et c'est urgent. N'attends pas, non. Là, il dit, tu vas pour adorer Dieu. Tu te souviens, vous savez, Dieu va toujours nous mettre des situations pour nous souvenir. Pour nous dire, ah oui, là, j'ai un problème. Quelquefois, en tant qu'humain, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'esquiver le problème. Parfois, la conscience te rappelle des choses, mais tu essayes d'esquiver ça. Tu essayes de contourner pour ne pas voir la réalité en face. Bien-aimé, Zachée a été direct. Il n'est pas passé par quatre chemins pour dire à Jésus, mais tu sais, moi le travail que je fais, ce n'est pas de ma faute. Hein. C'est compliqué en plus, je travaille pour des patrons, pour les Romains. Parfois, ils nous demandent de plus. Parfois, bien-aimé, Zachée n'est pas rentré dans ses explications. Non, il a parlé en son nom à lui, en disant, à partir d'aujourd'hui, je décide de mettre ma vie en règle. Bien-aimé, cette exhortation concerne toi qui n'as pas encore accepté Jésus. On a lu au verset 25, attention, accorde-toi avec ton adversaire en chemin, puisque quand ton problème sera auprès du juge, le juge, vous savez, parfois quand on a des accidents, il y a ce qu'on appelle des arrangements de constat amiable, hein, amical. Peut-être que tu vas perdre quelques bonus à ton, ou malus. Mais, au moins, vous échangez le numéro de téléphone. Bon, je vais voir pour comment faire. Puisque si ça passe au tribunal, eh ben, au lieu de payer 400 euros ou 300 euros, eh ben, là, le juge, lui, sera implacable. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe en justice. Vous savez, il y a des gens, par colère, ils déposent plainte. Et il se rend compte qu'il a déposé plainte en colère. Il vient pour retirer la plainte. Mais vous savez, quand le ministère public s'est saisi de l'affaire, ils peuvent te dire, oui, vous retirez votre plainte, mais le procureur lui décide de poursuivre l'affaire. C'est comme ça. Même si toi, tu as retiré ta plainte, le ministère public, lui, peut prendre l'affaire pour dire, oui, oui, vous avez retiré votre plainte, on entend, mais nous, on va aller jusqu'au bout. Et là, le Seigneur nous dit, accorde-toi promptement. Ça veut dire quoi? Quand la chose est petite, arrange. N'attends pas que la chose grandisse. Puisque quand la chose grandit, quand le mal grandit, quand le problème qui n'est pas réglé grandit, eh bien, ça sera très difficile de revenir en arrière. C'est ça l'exhortation, bien-aimé. Mettons nos vies en règle. Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi nous traînons? Pourquoi nous résistons, bien-aimés, devant un tel amour, devant l'amour de Dieu qui nous fait grâce? Vous savez, la vie de beaucoup d'entre nous est en dents de scie, puisqu'en réalité, il y a des choses, vous savez, en anglais, on dit ça « cold case », c'est des affaires non résolues. On les prend, on met dans un tiroir. Quand ça revient, Dieu permet que ça revienne, on dit « ah non, non, ça je vais le régler après ». Une autre affaire vient, on met dans un tiroir. Une autre vient, on met dans un tiroir. Mais attention, puisque le Seigneur lui dit attention, puisque quand le juge va se saisir de ces affaires-là, tu diras plus, oui, mais je n'ai pas eu le temps d'arranger. Non, 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 non. À ce moment, ça sera trop tard. Bien-aimés, mettons nos vies en règle. Toi qui résistes, tu as entendu parler de Jésus. Mais tu estimes que ta vie est trop belle. Tu estimes que tu es encore jeune et que tu as le temps. Regardons hier cette fille de 14 ans qui a été tuée. Et j'en passe, hein, vous voyez l'actualité en ce moment, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Regardons le monde dans lequel nous sommes. Regardons comment ce monde est dur. Un monde sans avenir, un monde sans espérance, un monde sans liberté, puisqu'il n'y a plus de liberté aujourd'hui. On est tous filés. On nous impose tous des choses par l'État. Et on nous empêche même d'avoir une pensée construite personnelle. Donc la pensée, c'est ce qu'on t'impose. Excusez-moi le terme, hein, mais c'est révoltant. Où est le rapport entre une Coupe du Monde et LGBT? C'est quoi le rapport? Mais on t'impose des choses. Et quand il y en a un qui dit, ah non, non, moi, je ne veux pas être associé à ça. Oh là là, voilà, le lobby LGBT se lève pour dire, voilà, cette personne-là est indignée. Vous voyez comment les choses sont renversées? Bien aimé, comme quelqu'un dira, on marche sur la tête. Et c'est ça le monde dans lequel on est. J'écoutais hier, vous savez, c'était la marche pour les femmes, je ne sais pas quoi, les féministes à Paris. Un papa costaud bien, en disant, mais moi je suis plus féministe que jamais. Hein. Nous sommes dans un monde de liberté où chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais faire ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que deux hommes se marient ensemble. C'est que deux femmes se marient. Vous savez, il y a ne serait-ce que quelques années, hein, 10 ans en arrière, c'était impensable. Je ne vais même pas loin. 10 ans en arrière, un papa comme ça, avec son enfant qui est là. Vous voyez, bien-aimé, c'est ça ce monde-là, ce qu'il nous propose. Mais la Bible nous dit quoi? Ce monde sera détruit. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est fait au temps de Sodome. C'est fait au temps de Gomorre. C'est fait autrefois. Il n'y a rien de nouveau. Oui, il y a quelque chose de nouveau. C'est que le mal a grandi. Le mal a grandi. Les humains n'ont plus cette chose qui fait que tu t'arrêtes, quoi. Tu as fait mal, mais tu t'arrêtes. Vous voyez tous ces meurtres-là qu'il y a. Comme hier, par exemple, le monsieur, il a abusé de cette jeune fille. Et pour la faire taire, ben, il tue. Or, autrefois, ce n'était pas le cas. Il y avait le mal qui était là, peut-être même en série. Mais là, aujourd'hui, les gens vont jusqu'au bout. Bien-aimés, c'est dans un tel monde que nous voulons nous plaire. Ce monde nous trahit, bien-aimés. Mets ta vie en règle. Pour ceux qui ont connu les années 80 à 90, un homme comme Phil Collins. Vous savez, Il y a musicien. Phil Collins, c'était, je ne sais pas s'il chante toujours, en tout cas, il est très malade, très mal en point. Il n'est même plus en mesure de marcher tout seul debout. Vous savez, c'est un musicien complet, ce monsieur-là. Il joue de tous les instruments d'une perfection. Il a une voix parfaite. Le monsieur peut jouer à la batterie pendant qu'il chante. Et il monte sur les voix tellement... Donc à lui seul, il fait tout. Mais bien aimé, aujourd'hui, vous le voyez, il ne tient même plus debout. On doit le maintenir pour qu'il reste debout. C'est ça ce monde, bien aimé. C'est ça ce monde. Mais ce monde va passer. Et le Seigneur nous dit, accorde-toi avec ton adversaire, puisque Jésus aujourd'hui, il est ton ami. Il veut une relation avec toi. Mais demain, c'est lui qui te jugera. C'est ça, bien aimé. Alors on dit, accorde-toi promptement. Vous savez, je me rappelle d'une histoire, hein, je ne vais pas m'éloigner du sujet. De 365 histoires, je crois. C'est un mafieux qui était toujours mêlé à des histoires de banditisme. Mais comme il avait beaucoup d'argent, ben il arrivait, par son argent, à payer le meilleur avocat pour le défendre. Et vous savez, c'est ça la réalité de ce monde, c'est que si tu as les moyens d'avoir une bonne défense, eh ben tu as aussi beaucoup de chances de gagner des procès. Mais toujours faut-il qu'il faut avoir les moyens. Alors, il gagnait tous ses procès. Et un jour, l'avocat lui dit, écoute, monsieur, faites attention, monsieur, puisque vous avez beaucoup de chances quand même de gagner beaucoup de procès. Il dit, oh, monsieur, moi, je vous paye pour me défendre. Vous êtes à mon service, c'est tout. Donc, je n'ai pas de conseils à recevoir de votre part. Moi, je suis votre client et je vous paye, vous me défendez. Mais vous savez, la prochaine affaire que cet homme-là a eue, son ancien avocat est devenu juge. Il arrive à la barre, il se rend compte que son avocat d'avant est devenu son juge. Bien aimé, le monsieur a été implacable. Parce que, vous savez, là, quand il t'est puni, il t'a déjà donné des conseils. Donc quand il t'est puni à ce moment-là, il sait comment déjà lui-même il a construit les stratégies de défense pour te défendre. Ça a marché. Bien-aimé, mais un jour, ça va s'arrêter. Un jour, on a vu, bien-aimé, regardez les gens comme les Sarkozy, regardez comme la Agnès Buzyn, ministre de la Santé, vous prenez toutes les décisions, mais aujourd'hui, elle dit quoi ? Tout le monde m'a laissé tomber. Mise en examen. Mais quand tu as le pouvoir, tu as l'impression que tu peux prendre toutes les décisions, tu as une forme d'impunité. Mais bien-aimé, un jour, ça finira, cette impunité-là. Tu devras rendre compte. Pour ceux qui suivent un peu la politique, je ne sais pas, ceux qui ont vu, comment il s'appelle, Édouard Philippe, en 5 ans, on a l'impression que le monsieur a 90 ans aujourd'hui. Puisqu'il y a des affaires qui sortent, gestion de Covid, il y a toutes les affaires qui sortent. C'est ça, bien aimé. C'est ça ce monde-là. Alors le Seigneur nous dit, faisons comme Zachée, réconcilions-nous avec Dieu. Mettons notre vie en règle pour dire, bon, ça suffit. Ça, c'est pour celui qui ne croit pas en Dieu. Et pour celui qui est chrétien, l'exhortation est là pour nous dire, bien-aimés, jusqu'à quand tu vas résister à la voix du Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, fais quoi ? N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors répare rapidement. Comment tu peux venir au culte et rentrer chez toi comme tu es venu? Bien aimé, moi le premier, nous sommes tous dedans. L'exhortation du Seigneur, c'est nous dire, mettons nos vies en règle, prenons la décision puisque demain ne nous appartient pas. C'est ça la vérité, bien-aimé. Nous lisons Matthieu 25. Demain ne nous appartient pas, bien-aimé. Mettons-nous en règle. Et le Seigneur nous donne la possibilité. Tu te connais, bien-aimé. Ne regarde pas l'autre pour dire non. Toi aussi, dans ton cœur, tu as des choses non résolues. Ne dis pas le prédicateur s'est trompé. Il a dit non. Regarde à toi. Comme moi, je regarde à moi, Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Alors le royaume de cieux, verset 1er, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et verset 7, « Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mais plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Veillons donc, soyons prêts tout le temps. Ne laissons pas en disant, bon, j'arrangerai ça. Vous savez, il y a parfois, tu as quelque chose à arranger, tu te dis, bon, je vais arranger ça le dimanche. Mais bien aimé, entre aujourd'hui et dimanche, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. C'est ça, bien-aimé. Le Seigneur nous dit, veillez donc. En quelque sorte, soyons prêts tout le temps. Vous savez la différence entre les vierges folles et les sages? En dehors du fait que les unes ont été prévoyantes avec leurs lampes et les autres pas, c'est que les folles ont négligé le fait que l'époux va revenir. Et il va revenir de manière soudaine, imprévue. C'est ça qu'elles ont négligé, bien-aimées. Et quelquefois, c'est l'état dans lequel nous sommes. Nous négligeons ce que dit la parole de Dieu. Nous négligeons les procédures du Seigneur. Matthieu 18, si ton frère a péché, va le voir, va lever le doute, va lever le quiproquo, va voir le frère pour lui dire, mais je ne comprends pas, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Proverbe 18, 17 nous dit que le premier qui plaide pour sa cause paraît juste, puis vient la partie adverse, on fait quoi? On examine. On examine. Ah, on m'a dit ça, ah ben c'est comme ça. Et toi, tu prends des positions aussi, puisqu'on t'a dit, ah, l'autre a dit ça. Tu prends des positions. Sans savoir que, vous savez, le téléphone arabe, excusez-moi l'expression, hein, chacun a... Vous savez, nous sommes humains. Hein. On aime bien rapporter parfois des choses. Et parfois, tu ne rapportes pas toujours fidèlement. Il suffit d'un, comme je le disais, une phrase. Il suffit d'une virgule dans une phrase pour que l'ordre ne soit pas le même. Pour que le sens de la phrase ne soit pas le même. Et parfois, on rapporte des choses en omettant parfois certains détails. Mais tu laisses l'autre dans une situation, il prend des positions. Mais le Seigneur nous dit dans ce cas-là, fais dans Matthieu 18, va à la source pour dire, mais écoute, est-ce que tu peux m'éclairer sur la situation? Ah non, mais il n'y a rien du tout. Y a... Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est tellement simple. Et là, tu commences à vivre avec la chose. Vous savez, quand c'est comme ça, le diable va te donner beaucoup d'éléments. Hein. Parce que lui, c'est le menteur. La prochaine fois, la personne va venir, elle va saluer tout le monde. Elle ne va pas te saluer, tu diras, ah ben voilà. Donc, il a vraiment un problème. Comment ça va? Pourquoi tu me demandes comment ça va? Puisque tu es dans la suspicion en te disant, il y a certainement quelque chose, un mal qui est caché, bien-aimé. Mais la question c'est, si le Seigneur revenait à ce moment-là, est-ce que nous irons avec lui ou pas? C'est ça la question, bien-aimé. Si le Seigneur revenait, bien-aimé, on nous parle ici de 10 vierges. Toutes étaient vierges. Toutes étaient promises à l'époux. Mais vous voyez, quand on nous dit, la porte fut fermée, qu'est-ce que l'époux dit? Je ne vous connais. Ah, c'est curieux. Puisque pourtant, elles étaient promises à l'époux. Mais l'époux dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est catégorique. Et l'exhortation du Seigneur bien-aimé. Mettons nos vies en règle. N'attendons pas, puisque demain ne nous appartient pas. S'il y a des choses à ranger, s'il y a des choses pour lesquelles on doit lever le doute, levons le doute plutôt que de rester chacun dans ses constructions, dans ses pensées. C'est ça l'exhortation du Seigneur, bien-aimé. C'est ça l'exhortation du Seigneur. Que faire, bien-aimé? Arrangeons tout de suite. Nous sommes maintenant à la fin de notre exhortation. Que faire? Ben, repentons-nous. Que faire? Confessez nos péchés. 1 Jean 1,9 nous dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, mais à condition que nous confessions nos péchés. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Vous savez, il y a un verset qui dit, si Dieu devait tenir compte, un psaume, de nos iniquités, qui pourrait subsister? Personne. Qui pourrait subsister? Mais nous sommes tous pécheurs. Mais la différence, c'est que il y en a qui reconnaissent leur état et qui disent, Seigneur, aide-moi, transforme-moi, change mon cœur qui est mauvais. Change-moi. Au lieu d'accuser les autres pour dire, oui, mais les chrétiens parlent beaucoup. Les chrétiens sont toujours dans les ragots. Les chrétiens, non. Dis-toi, Seigneur, donne-moi le cœur à aimer tes enfants, à aimer tout le monde. Que faire, bien-aimé? Ne laissons pas le mal agir dans nos vies. Ne laissons pas le mal se manifester. Vous savez, le mal est ingérable. Qui peut expliquer quelqu'un comme David, qui a manifesté la miséricorde vis-à-vis de Saül, a fabriqué un complot, un guet-apens contre Uri pour le faire tuer? Bien-aimé, c'est ça l'escalade du mal, du péché. Le mal est ingérable. Alors quand nous avons une situation, faisons comme David. Vous savez, quand Nathan vient lui parler, David dit, cet homme-là mérite la mort. Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Il dit, oui, c'est vrai. Je reconnais cela. Voilà. Je reconnais cela. C'est ça l'exhortation du Seigneur aujourd'hui. Mettons nos vies en règle. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui n'est pas réglé? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur qui n'est pas réglé? Il y a des aînés qui sont là. Il y a des frères, des sœurs qui sont là. Confessons pour dire, bon, j'ai tel problème. Plutôt que de le garder en se disant, mais si je le dis, on va penser que je suis jaloux. Ah ben oui, mais qu'on pense ce qu'on veut. Qui va juger de toutes les façons? C'est Dieu qui jugera. Or, Dieu qui est amour, il veut nous sauver, voilà pourquoi il a donné son fils Jésus. Alors que les hommes te jugent, en disant, ah, mais il est jaloux de tel, il est... Bon, gloire à Dieu, mais au moins, toi, tu es libéré. Toi, au moins, tu as réglé ton problème. C'est ça, bien-aimé. Le Seigneur nous interpelle, Apocalypse 3:20, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre son cœur, j'entrerai. C'est ça, bien-aimé. N'attendons pas pour régler nos problèmes. N'attendons pas, vous savez, c'est ce qu'Éphésiens 4 nous dit, hein. Si tu te mets en colère, ne pêche point. Mais il rajoute encore en disant que ne te couche même pas sous la colère. Fais en sorte que ta colère passe avant d'aller dormir. Puisqu'en allant dormir, vous imaginez, tu vas dormir en colère. Alors là, le diable te massacre de pensées pour te dire, en plus, demain, quand tu vas le voir, il vient te dire bonjour, tu fais un scandale devant tout le monde. Vous savez, là, c'est-à-dire que tu as eu toute la nuit pour mûrir. Bien aimé, la chair est comme ça. Dis pas moi je suis pas moi. Moi, je suis pas. En tout cas, si ce n'est pas le cas pour toi, gloire à Dieu. Hein? J'ai été humilié devant tout le monde. Donc là, tu as la nuit hein, pour méditer maintenant la riposte. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit non. Quand tu vas te coucher, arrange. Puisque pendant la nuit, tu es inconscient. Peut-être que tu vas perdre ton âme, tu vas perdre le souffle, pardon, à ce moment-là. Tu diras quoi à Dieu? Seigneur, Seigneur, non, non. Vous savez, on se rappelle de l'histoire de Luc 16, hein, l'homme riche. Non, mais renvoie, peut-être que... Non, le Seigneur lui dit, c'est trop tard. Là, tu es dans les souffrances, c'est comme ça. Je n'enverrai pas Abraham prêcher à tes frères. Non, ils ont la parole, la Bible. C'est trop tard maintenant. Et c'est ça, bien-aimé. Le Seigneur nous donne l'occasion de régler ce que nous avons à régler. Même si l'autre réagit mal, gloire à Dieu. Mais nous, réglons ce que nous avons à régler, bien-aimé. Je reviens encore à mon exemple. Tu viens au culte pour adorer le Seigneur. Mais en même temps, dans ton cœur, tu refuses de pardonner. Vous savez, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité, mais à contrario, la prière du méchant est quoi? Une... Comment? Abomination! La prière du méchant est une abomination. Donc, il aurait même fallu pour le méchant de ne pas prier pour bénéficier de la clémence de Dieu. Mais quand le méchant vient prier, vous savez, ça énerve encore Dieu pour dire, voilà cet hypocrite. Et parfois, ça nous arrive comme si de rien n'était. Ah! Tu rentres à la maison, tu es une autre personne. Tu vas au travail, tu es une autre personne. Les bien-aimés, le Seigneur peut nous surprendre. Vous savez, Matthieu 7, 21 nous dit que beaucoup diront, c'est la réponse que le Seigneur a donnée à ces femmes, hein, les folles, je ne vous connais pas. Ils diront, mais Seigneur, nous avons travaillé, on a été efficaces. Je parle avec quelqu'un qui est chrétien, peut-être que son âge de la vie chrétienne, c'est mon âge à moi de vie jusqu'aujourd'hui. Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait... Et à un moment, elle me parle de son mari. Elle dit, oui, mais Dieu peut sauver. Ah non, 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 non. Lui, non. Lui, il ne sera jamais sauvé. Tout ce qu'il m'a fait. Tout ce... Je dis, mais bien-aimé, mais en même temps, tu es chrétien. Tu évangélises pour que Dieu touche les autres. Mais en même temps, toi, tu décides délibérément de mettre une croix sur... Bien-aimé, voilà la contradiction dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à nous mettre en règle. Pendant que nous sommes sur le chemin, faisons l'arrangement amiable en disant, Seigneur, je comprends que je résiste. Je comprends que ma vie tourne en rond puisque je ne veux pas céder. Alors à partir d'aujourd'hui, Seigneur, aide-moi. Tu vois l'amertume dans mon cœur. Tu vois la colère dans mon cœur. Tu vois le mal qui est en moi. Tu vois le péché que je garde. Tu vois l'orgueil qui me maintient dans ce péché. Tu vois la méchanceté que je peux manifester, que les autres ne voient pas par ailleurs. Mais toi, tu le vois. Seigneur, délivre-moi. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur nous invite à faire ce matin. À nous mettre en règle vis-à-vis de sa parole. À nous mettre en règle vis-à-vis de lui. Pour bénéficier pleinement de son salut. Et quand j'ai dit salut, ce n'est pas juste le ticket pour aller au ciel. C'est pour bénéficier de la vie de Dieu. Et Zachée, vous savez, quand il parle à Jésus, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui. Je pense qu'il a été soulagé à ce moment-là. Il était soulagé. Comme le brigand à la croix qui dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il a réglé son problème à la dernière minute. Mais il a eu l'occasion et le temps de le faire. Et parfois, nous, on vient chrétiens, mais volontairement, on est dans des positions de colère. Et le Seigneur nous exhorte aujourd'hui, bien-aimés, à arranger ce que nous devons arranger. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Moi, le premier, Seigneur, nous prions pour que, comme Zachée, tu nous transformes, Seigneur. Tu vois notre cœur qui est mauvais, notre cœur qui est orgueilleux, Seigneur. Notre cœur qui est rempli, Seigneur, de mal, Seigneur. Mais Seigneur, tu dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas tarder, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire traîner les choses, Seigneur, dans nos cœurs. Ça a trop duré, nous voulons faire comme Zachée. Maintenant que tu nous donnes la possibilité de réparer, Seigneur, véritablement, donne-nous la force. Donne-nous la force, Seigneur. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci pour ton esprit qui agit en nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.